Nous voici déjà à la veille de Shabbat Hagadol. Ce Shabbat est donc appelé le Grand Shabbat. Demain soir, nous célébrerons tous ensemble la fête de Pessah. Ce Shabbat qui s'appelle le Grand Shabbat est assez particulier. C'est le seul Shabbat de l'année qui porte ce nom. Pour quelle raison porte-t-il ce nom? Le Shulchan Aruch nous dit « Mishum shenaaseh bo nes gadol » parce que ce jour-là, il y a eu lieu un grand miracle. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, fondateur du Chassidim Chabad, a aussi écrit un Shulchan Aruch. Dans son code de loi, il s'arrête sur chacune des lois et il en donne les raisons. Ainsi, il explique la raison pour laquelle Shabbat Hagadol s'appelle Shabbat Hagadol. Et il dit que Shabbat qui est avant Pessah, on l'appelle Shabbat Hagadol parce que un grand miracle y a eu lieu, puisque le jour où les Béné Israël ont dû faire acquisition d'un agneau, c'était un jour de Shabbat. Cet agneau devait être sacrifié à la veille de Pessah, à la veille de la sortie d'Égypte. Et voici que tout Israël s'est muni d'un agneau, se dirigeait vers la maison. Chacun devait lier cet agneau au pied de son lit. Et tout cela pourquoi? Afin que les Égyptiens viennent à questionner le peuple juif sur cet acte bizarre. C'était d'autant plus étonnant pour les Égyptiens que l'agneau était un dieu des Égyptiens. Que s'est-il produit? En effet, les Égyptiens questionnèrent Israël. Et le peuple d'Israël, sans aucune crainte, leur révéla que bientôt Dieu allait les faire sortir d'Égypte. Et la veille de cette sortie, il devait sacrifier cet agneau. Quel courage! Et là, on apprend que ce soir-là, ont-ils précisé, le peuple juif a précisé aux Égyptiens, ce soir-là, Dieu tuera tous les premiers-nés égyptiens. Et le Midrash nous raconte, ceci est rapporté dans le Shulchan Aruch, lorsque les premiers-nés entendirent ce message du peuple juif, alors les premiers-nés égyptiens allèrent chez Pharaon et ils se révoltèrent. Ils demandèrent la liberté, la libération du peuple juif. Certes, Pharaon ne les a pas écoutés, cependant, les Bechorim, les Bechorot d'Égypte, se sont révoltés contre Pharaon pour la liberté du peuple d'Israël. Ainsi, chaque année, pour se souvenir de ce miracle, qui est d'ailleurs exprimé dans un verset des psaumes, du psaume 136, « Les Makem Mitzrayim Bifroreim » Dieu a frappé les Égyptiens par leurs propres premiers-nés qui se révoltèrent et qui causèrent de grands dégâts en Égypte. Pour commémorer cet événement, chaque année, ce Shabbat où il y a eu lieu un grand miracle, le Shabbat avant Pessah, nous l'appelons Shabbat Hagadol et nous rappelons ce miracle. On pourrait s'interroger sur la façon avec laquelle on appelle le miracle qui s'est produit ici. Et nous devons même essayer de comprendre en quoi c'est un grand miracle. Tout d'abord, peut-on dire d'un miracle qu'il est grand ou petit? N'est-ce pas suffisant qu'un miracle se produise pour que l'homme donne une grâce à Hachem, glorifie Dieu pour cela? Qu'est-ce que cela signifie de qualifier un événement comme un petit miracle, et de qualifier un autre événement comme un grand miracle. De plus, ce miracle a-t-il eu vraiment un intérêt pour le peuple juif? La révolte des premiers-nés n'a pas emmené la libération du peuple juif. Ce n'est que la plaie que Dieu donna plus tard contre les premiers-nés qui a réussi à convaincre Pharaon par haut de libérer le peuple juif. Donc en quoi ça peut être un grand miracle, puisque le peuple juif, a priori, n'a pas tiré un intérêt direct? La réponse tient donc dans la définition de ce qu'est un miracle. Généralement, nous pensons que le miracle, c'est le miracle qui est manifeste, celui qui trouble toutes les lois de la nature, qui les défie. Ainsi, un miracle est là pour être un signe. Harim nisi ale harim, c'est comme un fanion que l'on bouge en tant que signe. Ainsi, un miracle, c'est un moyen de repérer Dieu dans sa création. Pourtant, il existe deux types de miracles. Généralement, en fait, il existe plusieurs types de miracles, mais plus généralement, on peut caractériser ça dans deux types de miracles. Il existe des miracles qui se produisirent d'ailleurs au moment de la sortie d'Égypte, et qui sont des miracles qui brisent complètement les lois de la nature. De l'eau qui va se transformer en sang, le froid en chaud. Des plaies invraisemblables, une mer qui s'ouvre. Tout cela, ce sont des miracles qui défient les lois de la nature. Il y a d'autres miracles qui s'intègrent dans la loi de la nature. Et il y a d'autres idées encore. Il y a certains miracles qui font à ce que on fait une parenthèse pour ce qui est l'opposé de celui qui doit être miraculé, en l'occurrence ici le peuple juif. Et il y a d'autres miracles dans lesquels, au contraire, on associe celui qui est opposé au miracle. D'ailleurs, même pour les temps messianiques, il existe une prophétie qui est interprétée de deux façons. Il existe une prophétie qui dit qu'au temps messianique, il n'y aura pas de bêtes sauvages. Le Talmud interprète cela de deux manières. Ça peut être un miracle, ça va défier les lois de la nature, parce que les bêtes sauvages ne soient pas sauvages. Alors, un premier avis dit qu'il n'y aura plus de bêtes sauvages. Fin de compte, le temps messianique sera un temps sans bêtes sauvages. Il y a un deuxième avis, et c'est l'avis d'ailleurs qui est retenu. Non, les bêtes sauvages continueront d'exister, mais leur violence sera transformée. Dorénavant, elles seront certes avec une énergie qui est sauvage, mais pas violente. Là est toute la différence. Il en est de même dans les miracles. On peut envisager un miracle qui va briser l'Égypte, briser l'Égyptien. L'Égyptien, là, ne va pas participer à la libération du peuple juif. Il existe un autre miracle qui, celui-là, est bien plus grand parce qu'il montre qu'il n'y a pas d'opposition entre ce qui nous apparaît mal et Dieu lui-même. Puisque Dieu est le Créateur, tout doit correspondre à Dieu lui-même. Et d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, tous les éléments de la nature, tous les éléments de la création, se doivent de revenir vers Dieu. Même ce qui apparemment nous paraît mauvais. Ainsi, même les Bechor et Mitzrayim, à un certain stade, ont participé pour la libération du peuple juif. Et en cela, c'est effectivement un grand miracle. La leçon que nous avons en tirée, nous, pour sortir aussi de notre propre exil, de notre exil dans lequel nous vivons, ou de l'exil intérieur, personnel, dans lequel nous nous trouvons, nous devons savoir qu'il y a deux manières avec lesquelles nous devons agir sur notre corps ou sur notre matérialité, sur la matière qui nous entoure. La première façon serait de faire abstraction de tout ce qui est corporel, de tout ce qui est plaisir matériel. La seconde serait de transformer ce qui est corporel, ce qui est plaisir matériel, en bien. N'est-ce pas là d'ailleurs aussi le sens de la Teshuvah? La Teshuvah n'est pas d'anéantir le mal, mais de transformer le mal en bien. Ça, c'est tout le sens. Nous devons savoir que dans notre existence quotidienne, nous aussi, nos actions, celles que nous menons, ne doivent pas faire l'économie d'un investissement dans une vie professionnelle, sociale et familiale, d'une manière totalement matérielle. Que la personne s'investisse et apporte des fruits. Et lorsque cette utilisation est faite à bon escient, alors effectivement, tout prend un sens et on sort de toutes les limites et on montre que Dieu n'est pas seulement limité à la montagne du Sinaï, mais partout, il peut se révéler, même dans l'étroitesse de l'Égypte.